hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Philippe Forest. J'ai fait de ma fille un être de papier, j'ai tous les soirs transformé mon bureau en un théâtre d'encre où se jouaient encore ses aventures inventées. Le point final est posé, j'ai rangé le livre avec les autres, les mots ne sont d'aucun secours. Je fais ce rêve, au matin elle m'appelle de sa voix gaie de réveil, je monte jusqu'à sa chambre. Elle est faible et souriante, nous disons quelques mots ordinaires, elle ne peut plus descendre seule l'escalier. Je la prends dans mes bras, je soulève son corps infiniment léger. Sa main gauche s'accroche à mon épaule, elle glisse autour de moi son bras droit, et dans le creux de mon cou, je sens la présence tendre de sa tête nue. Me tenant à la rampe, la portant, je l'emmène avec moi. Et une fois encore, vers la vie, nous descendons les marches raides de l'escalier de bois rouge. Sainte-Cécile, 25 avril, 25 juin 1996. Nous sommes fin 2012, Philippe Forest. Le temps fait-il quelque chose à l'affaire ?
Oui et non. Je mentirais si je disais non. Mais il y a, en tout cas, c'est le pari sur lequel tout ce que j'ai fait depuis, donc je ne sais plus combien d'années maintenant, est fondé. Il y a une fidélité qui est nécessaire à cette souffrance-là, parce que c'est de ce côté-là, pour moi, que se tient, disons, la vérité. Donc la souffrance se transforme avec le temps, elle prend des formes différentes, mais il y a toujours ce vide. Cette absence-là, et c'est là-dessus que tout ce que j'ai écrit repose, sur ce vide.
Est-ce que ce vide, vous le nommeriez aussi présence-absence, absence-présence ?
Oui, c'est ça. C'est une sorte de spectacle assez curieux dans lequel ma vie s'est transformée, comme celle, j'imagine, des autres gens qui ont vécu une expérience comparable. Une vie qui est faite d'apparitions et de disparitions. Le souvenir revient, il s'efface, mais c'est pour revenir encore. Et c'est à travers ce jeu-là, enfin si on peut appeler ça un jeu, parce qu'il a une dimension grave et dramatique, c'est à travers ce jeu-là que je pense et que je vois mon existence depuis l'enfant éternel et les événements que le livre raconte.
Le jeu, on peut l'entendre aussi comme J.E.
Oui, parce que c'est une expérience qui est singulière, enfin l'expérience du deuil, puisqu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, comme l'expérience du désir, c'est une expérience qui ne se vit qu'à la première personne du singulier. Et je crois qu'il ne peut y avoir d'épreuve de la vérité qu'en son nom propre et à la première personne du singulier.
Quand on regarde votre parcours aujourd'hui, on voit que vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, que vous avez un parcours à la fois d'historien de la littérature, de romancier, mais aussi de connaisseur du Japon, et que avant la perte et la disparition de votre fille, Pauline, vous aviez été enseignant, notamment en Angleterre. Et on a l'impression, en prenant un peu de distance, que c'est la disparition de votre fille qui a fondé l'expérience d'écriture.
Cette expérience d'écriture, oui. J'ai l'impression un peu de mener une double vie. C'est-à-dire, celui que j'ai été avant continue au moins en apparence à être. Je continue à être professeur de littérature en France maintenant. Je continue à écrire des textes, parfois qui sont des textes, disons, universitaires ou académiques. Mais il y a un autre moi-même qui existe dans ma vie privée, mais ça ne regarde que moi, mais qui se manifeste aussi à travers tous ces livres que j'ai écrits et qui effectivement construisent une sorte de série que j'ai moi-même du mal à apprécier et à mesurer, parce que chaque livre... Quand j'ai écrit L'Enfant éternel, la plupart des gens et moi-même s'imaginaient que ce livre n'aurait pas de suite. Et finalement, très vite, c'est le contraire qui s'est passé, parce que je me suis senti dans la nécessité d'en écrire un deuxième, qui est Toute la nuit, et depuis, ça ne s'arrête pas, ce qui est bien une preuve que cette expérience-là, elle demande interminablement à être dite, sans doute. Donc il y a ce dédoublement d'un côté quelqu'un, je crois, qui vit de manière assez ordinaire et sans rien d'exceptionnel, et puis de l'autre, cet autre moi-même, qui manifeste sa fidélité à cette expérience-là, à travers toutes sortes d'épreuves, à travers toutes sortes de conduites, mais dont la plus visible est celle de l'écriture.
On peut évoquer Mallarmé et plus proche de nous, Louis-René Desforest.
C'est-à-dire, cette expérience du deuil est une expérience de grande solitude, mais dans laquelle devient possible une sorte de communication, au sens où Bataille dit qu'il n'y a de communication vraie entre les êtres que de déchirure à déchirure. Il y a toute cette réflexion chez Bataille qui a été reprise par d'autres philosophes sur l'idée de communauté, une communauté qui est absence de communauté. Ben, il est clair que les endeuillés, si on veut les appeler comme ça, constituent une sorte de communauté un peu paradoxale, puisque chacun est absolument seul, et même à l'intérieur d'un couple, et sans capacité vraiment à venir en secours à l'autre. Mais malgré tout, ça forme une communauté. Et dans cette communauté se trouvent toutes sortes d'écrivains vers lesquels je me suis tourné, Victor Hugo et Mallarmé dans le premier livre, puis après des écrivains japonais, ou Dostoïevski, Faulkner, plus récemment. C'est cette communauté-là, finalement, dont j'essaye de faire entendre aussi la voix dans mes livres.
Alors, vous venez de parler de Dostoïevski, vous avez effectivement publié un livre tout à fait étonnant et remarquable qui s'appelle « Le roman, le réel » et vous nous avez autorisé à lire Dostoïevski autrement. Vous nous rappelez, ce que j'ignorais personnellement, mais je pense que de nombreux auditeurs l'ignorent aussi, c'est que quand Dostoïevski a écrit « L'idiot », il venait de perdre sa fille.
Il y a en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans Les Frères Karamazov, en fait, il y a quelque chose qui a été écrit sous le coup direct de l'expérience du deuil. Hein. Et c'est quelque chose, effectivement, que moi-même j'ignorais, et qui m'a frappé d'autant plus qu'il y a une lecture canonique des Frères Karamazov qui est mise en avant en général, et qui est celle de Freud, qui insiste sur le fait que ce livre est un livre sur le parricide, ce qui est vrai. Mais ça n'est pas simplement ça, et une lecture un peu autrement intéressée, la mienne en l'occurrence, essaie de faire porter l'accent sur autre chose, dire la mort de l'enfant. Il y a cette scène très célèbre dont je pars dans ce livre-là, que j' ai évoquée dans d'autres livres aussi, qui est le dialogue entre deux des frères Karamazov, Ivan et Alyosha, où Ivan oppose à la foi d'Alyosha une sorte de protestation, de révolte, en disant que même s'il avait tort, il refuserait d'être sauvé par un dieu qui accepte que des enfants meurent. Et c'est cette parole de protestation qui me semble absolument sublime et que je crois tous, enfin la plupart des grands écrivains endeuillés ont essayé de faire entendre à leur manière, et que ça soit Hugo, Mallarmé, dont on parlait tout à l'heure, ou donc Dostoïevski. On ne sait pas très bien où Dostoïevski se tient, s'il est du côté de la croyance en un salut possible, comme Alyosha, ou s'il est du côté de la protestation. Ben, moi, je pense plutôt qu'il est du côté de la protestation, mais peu importe, à vrai dire, où se situait Dostoïevski en tant qu'homme, ce qui compte, c'est qu'il met en scène l'affrontement de ces deux points de vue et qu'il nous laisse libre de choisir le nôtre.
Voici ce que vous écrivez. « Plus que celle du père, la mort de l'enfant est en effet le scandale dont Dostoïevski tente, avec les frères Karamazov, de conjurer la dimension de vertige. » Et effectivement, quand on lit votre analyse, on se dit qu'on est peut-être passé à côté du cœur battant de ce texte, ô combien célèbre.
Bah c'est mon point de vue, et c'est pas un point de vue purement littéraire, c'est que j'essaye en fait dans tous mes livres aussi de témoigner, disons, pour cette expérience-là dont la société ne veut rien connaître, d'où le refus de considérer ce qu'il en est du deuil parental, la volonté d'euphémiser celui-ci, je parle beaucoup de ça en mettant un peu en cause la notion de travail du deuil dans L'Enfant éternel notamment, et c'est vrai aussi du côté de la littérature, c'est-à-dire les lecteurs ne veulent pas lire cela qui est pourtant écrit dans le livre parce que c'est bien... Il le refuse, oui, parce que ça, c'est tabou et c'est effrayant, parce que ça nous confronte à ce qui est, pour chacun d'entre nous, je crois, l'une des angoisses majeures. Donc j'essaye de faire apparaître dans ces livres cette vérité-là, pas simplement pour corriger, je dirais académiquement, la lecture des grands auteurs.
Et non pas non plus parce que vous êtes un obsédé textuel, vu votre expérience, mais parce que effectivement, ce voile noir qui recouvre le monde après l'expérience de la disparition d'un enfant vous a donné d'autres lunettes.
Voilà, je crois, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, je vois les choses différemment et j'essaye de les faire voir différemment autant que possible. Bah, on parlait de fidélité tout à l'heure à propos de l'enfant éternel, pour que par cette fidélité-là, une vérité apparaisse qui me semble indispensable pour comprendre véritablement ce qu'il en est de l'expérience humaine, dans son versant de deuil, mais aussi dans son versant de désir, parce que pour moi, les deux vont ensemble. La mort ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse à travers le deuil, c'est de maintenir le désir vivant.
Dans ces moments-là, après la disparition d'un être cher et la disparition d'une petite fille, quelquefois, ce sont les livres qui sont comme des bouées de sauvetage. Nous allons écouter la voix de Suzanne Sontag, qui va parler des intentions qui étaient les siennes en écrivant à la maladie comme métaphore. Je crois que c'est un texte qui a beaucoup compté pour vous,
oui.
Philippe Forest. C'est une archive de À Voix Nue du 4 janvier 2001, un entretien avec Chantal Thomas, la voix de Suzanne Sontag.
Je voulais écrire pour expliquer d'où vient et quel sens, ou plutôt le non-sens de ces mystifications qui entourent cette maladie en particulier. Alors, raconter ma propre histoire, que j'étais diagnostiquée, que j'ai pleuré, que j'ai souffert, que j'étais entourée par des gens adorables qui m'ont donné beaucoup de force, que j'ai pris mon courage, que j'ai trouvé un bon médecin, d'ailleurs ici à Paris, un médecin auquel je dois ma vie, le professeur Lucien Israël. Tout ça me paraissait totalement mineur et même égocentrique par rapport au contenu que je pouvais avec lequel je pouvais aider les autres. Ce n'était pas mon propre histoire qui les aide, mais c'est les idées que j'ai tirées de mon propre histoire et expérience. Alors, il y a des gens qui pensent que je suis très objectif, même trop, que je suis un grand cérébral, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est simplement que je ne pensais pas, ce n'était pas modestie, et je crois une modestie totalement juste, que je ne pensais pas que ma propre histoire avait beaucoup d'intérêt. Mais les idées peuvent aider. Et j'ai l'impression que ces idées ont aidé, qu'ont même sauvé beaucoup de vies. C'est ça qu'on m'a dit par lettre, par communication personnelle, à travers des années depuis la publication de ce livre qui traduit dans beaucoup de langues et utilisé dans les écoles de médecine, etc., etc. Mais alors, c'est vrai, il y a un refus autobiographique, mais je crois pour des raisons justes.
Oui. Nous venons d'entendre la voix de Suzanne Sontag, aujourd'hui disparue de cette maladie qu'elle vient d'évoquer. Et effectivement, je pense qu'on peut tracer un parallèle entre vos deux expériences d'écriture, de vie et d'écriture, Philippe Forest. Car ce n'est pas non plus de l'autobiographie que dans certains ouvrages vous utilisez comme registre, mais c'est plutôt la pensée de l'impossible que vous essayez de traduire par des mots. Et je crois que Suzanne Sontag, dans ce livre, donc La maladie comme métaphore, a réussi aussi à se situer sur cette ligne de crête très très difficile et dangereuse. Oui. Penser, pas seulement vivre et transcrire ce qu'on vit, mais penser.
Et oui, il faut que la pensée soit gagée sur l'expérience, mais il faut qu'elle se déploie à partir de là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de la première personne. Moi, j'ai rencontré Suzanne Sontag, en fait, pour faire un entretien avec elle pour Art Press. En général, quand je veux rencontrer des gens, je m'arrange pour me faire missionner par un magazine pour un entretien. Et c'est ce qui s'était passé parce que j'avais une grande admiration pour elle. Et on devait se revoir. C'était dans une période de rémission. Et puis donc, sa mort a empêché que le dialogue se poursuive. Mais pour moi, c'est un exemple et un modèle. C'est un écrivain des Lumières, disons. C'est quelqu'un qui a combattu l'obscurantisme dans lequel nous nous débattons tous, et particulièrement les gens qui sont malades. Moi, j'avais été très frappé par la démonstration qui se trouve dans La maladie comme métaphore, où elle explique que finalement, on essaye de faire peser sur les malades du cancer la responsabilité et la culpabilité de leur propre maladie à partir de toute une série d'hypothèses qui n'ont aucun fondement scientifique sur la nature prétendument psychosomatique de cette maladie. C'est une thèse contre laquelle justement Lucien Israël s'était battu aussi. Et on sait que ça n'est absolument pas démontré, mais ça forme un fond de croyance dont les gens ne veulent pas démordre. Et c'est extrêmement sauvage que cette croyance-là, puisque, comme je le disais, ça fait que la souffrance de la maladie, la menace de mort qu'elle représente, se trouve en quelque sorte redoublée par ce discours culpabilisateur que la société nous tient à tous, et notamment aux malades. Donc pour moi, oui, Suzanne Sontag a été un modèle dans ce livre-là.
Après la mort de votre fille, vous avez décidé de disparaître. Donc vous êtes allé loin.
Oui, d'abord, pas très loin, en Vendée, c'est là où j'ai écrit, dans une maison complètement perdue au milieu de la campagne, L'Enfant éternel. Et puis ensuite, avec ma femme, nous sommes partis pour le Japon. Et c'était une manière de mettre le plus de distance possible entre ce que nous avions vécu et ce que nous étions en train de vivre. Mais en même temps, c'était une fuite qui était impossible et dont, au fond, nous ne voulions pas vraiment. C'est ce que je raconte dans Sarina Gara, en montrant comment même la distance la plus grande qu'on met entre soi et sa vie, elle vous conduit paradoxalement à revenir vers ce qui a été l'expérience la plus vive et la plus forte de votre existence.
Aller loin ne sert à rien, mais par contre, autorise à s'imprégner d'une culture, de tradition et d'une littérature.
Oui, je suis parti, on parlait de Susan Sontag et en fait le document que vous nous avez fait entendre m'y fait penser. Je suis parti au Japon aussi parce que je voulais rencontrer un autre grand écrivain avec lequel j'ai fait un autre entretien pour la NRF cette fois, qui est Kenzaburo Oe, parce qu'il avait vraiment été pour moi un modèle au moment de l'écriture de L'Enfant éternel. Et donc je suis parti au Japon pour quelques mois à la Villa Kujoyama à Kyoto, et j'en ai profité pour faire cet entretien avec Oe. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à lire bien sûr toute l'œuvre de Oe, enfin tout ce qui était traduit en français ou en anglais. Et puis pour comprendre cette œuvre, je me suis mis à lire beaucoup de littérature japonaise. Et du coup, je me retrouve dans la position un peu paradoxale de passer pour un spécialiste de la littérature japonaise, alors qu'en fait, je suis, disons, plutôt une sorte d'amateur éclairé, quoi.
Nous allons écouter la voix de Kenzaburo Oe. Il va parler de l'intrication de l'intime et de l'histoire dans son écriture. C'est dans une émission du 17 janvier 2006, Tout arrive.
Je pense rétrospectivement que la fin de la guerre, cela a vraiment signifié pour moi une blessure extrêmement profonde. A coïncidé avec la période de la fin de la guerre, la mort de mon père, qui était un ultranationaliste. Et c'est après donc la mort de mon père, la fin de la guerre, cette blessure gigantesque, que je suis venu à Tokyo, qu'il y a eu la naissance de mon fils handicapé. Et mon écriture m'a servi à me comprendre moi-même. Et le résultat en a été en quelque sorte que je me suis petit à petit éloigné de l'ombre de la mort, que j'ai, dans cette tentative pour survivre, j'ai petit à petit cheminé vers la vie. Et ça, je crois que c'est cet apaisement dont vous parlez, quelque chose qui est de l'ordre de la guérison.
La guérison est aussi, donc trace votre sillon autobiographique. Il y a tout de même, juste après le prix Nobel, un moment de rupture où vous décidez de ne plus écrire de romans, après le décès tragique de certains de vos amis. Et puis, encore une fois, Kenzaburo Oe, la littérature comme guérison a repris le dessus, s'il faut en croire la publication d'une trilogie qui reste encore non traduite en France.
Oui, je crois en effet. La mort de cet ami a été un événement très critique pour moi, parce que c'est un ami de très très longue date. C'est lui qui, quand nous avions 16 ans, m'a en quelque sorte enseigné la littérature. J'ai épousé sa sœur, mon fils handicapé était donc son neveu. Et sa mort soudaine, son suicide imprévisible, m'a obligé, a rendu nécessaire que je réfléchisse à sa mort et à la signification de son suicide. Et donc, la réflexion qui m'a mené depuis le souvenir de notre rencontre, de l'amitié qui a été la nôtre, de la défaite que nous avons vécue ensemble, jusqu'à donc ce qui a abouti dans cette trilogie, je crois que ça a été un parcours au bout duquel, d'une certaine façon, j'ai trouvé une guérison.
Nous venons d'entendre la voix de Kenzaburo Oe au micro de Clémence Boulouk. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Oe, notamment « Légendes anciennes et nouvelles d'un romancier japonais ». Et puis je crois que vous avez été imprégné par toute cette culture littéraire japonaise. Vous évoquiez ce livre « Sarina Gara ». Sarina Gara qui est une sorte de parcours qu'on peut lire. En tout cas, quand je l'ai relu, je l'ai vécu comme une sorte de rite initiatique avec trois personnalités japonaises, le poète Kobayashi Issa, Nasumo Soseki et le photographe Yosuko Yamahata, qui va être ce photographe qui va photographier le premier la catastrophe et la tragédie de Nagasaki. Et vous écrivez ceci dans ce livre. « Toute sagesse dit, le temps est un fleuve, mais en réalité, personne ne se tient jamais sur la berge des mondes pour en contempler le cours. » Tout lesté d'eux-mêmes, les corps flottent dans l'épaisseur qui les étouffe, entourés d'une lumière bleutée de néon, passant entre deux lignes de néant, sans rien savoir du remuement vert et gris qui les balance et les porte vers nulle part. Le fleuve du temps est sorti de son lit pour recouvrir le cercle sans couture de l'horizon. Il déverse partout sa matière opaque sur les hommes et les noix. Et j'ai l'impression que cette culture japonaise, cette imprégnation, vous a autorisé, Philippe Forest, à devenir non pas simplement un spécialiste de littérature française et japonaise, mais aussi à faire le pont, à passer finalement la rive pour devenir un écrivain et aussi un philosophe du temps.
En tout cas, ce qui est très juste, c'est que cette question du temps, elle est apparue sans doute dans Sarina Gara et elle prend de plus en plus de place dans mes livres, et notamment dans le dernier roman qui est apparu, Le Ciel des Nuages, et peut-être plus encore dans le prochain qui doit apparaître l'année prochaine. C'est une autre perception du temps, oui, vers laquelle m'ont guidé ces écrivains japonais, non plus le temps linéaire auquel nous sommes parfois habitués en Occident, mais un temps en quelque sorte qui coule dans toutes les directions à la fois, et que j'essaye d'éprouver en dehors de l'illusion rétrospective à laquelle cèdent trop souvent à mon goût les écrivains ou les philosophes lorsqu'ils veulent à tout prix que le temps ait un sens, c'est-à-dire qu'il ait à la fois une direction et une signification, alors qu'à mon avis l'expérience poétique elle consiste justement à s'abandonner au temps et au non-sens, à l'absence de direction de celui-ci. Et ça, c'est quelque chose que les écrivains japonais ont bien montré.
Alors aujourd'hui, vous êtes l'un de ceux qui pensaient de manière la plus aiguë, justement, ces problèmes, d'autobiographie, d'autofiction, où est le jeu, quel est l'espace entre le jeu, le soi, le moi. Nous allons écouter la voix de Michel Léris, qui va parler de la règle du jeu. C'est un entretien avec Paul Chavas du 24 janvier 1968.
La règle du jeu, c'est la même veine que l'âge d'homme. Ça ne représente pas du tout le départ vers quelque chose de nouveau, comme l'avait été pour moi l'Afrique fantôme en son temps, et puis l'âge d'homme, justement. C'est la reprise de cette recherche autobiographique, qui est d'ailleurs, il faut bien s'entendre, quand je dis autobiographie, ça ne veut pas dire du tout le plaisir de raconter ma vie. C'est plutôt découvrir, si possible, qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais, ce que je préfère faire, ce que je suis, en somme. Eh bien, la règle du jeu prend en ce sens la suite de l'âge d'homme. Ce qui m'est apparu, c'est que dans l'âge d'homme, j'avais abordé le domaine érotique, qui me paraît encore d'une importance capitale, mais qu'à ce moment-là, j'avais peut-être tendance à considérer un petit peu trop comme la clé de tout, ça sous l'influence de Freud. Ce qui m'a semblé, c'est qu'il fallait que cet examen de moi-même, que je le fasse pour d'autres domaines qui avaient été laissés de côté, presque entièrement laissés de côté dans l'âge d'homme. C'est pourquoi vous constaterez que dans la règle du jeu, il y a un thème qui disparaît presque, c'est le thème érotique, et puis en revanche, un thème qui apparaît, le thème politique. Les chapitres sont en général centrés sur des faits, généralement de très peu d'importance, mais considérés comme significatifs et riches en harmonique. À ce point de vue, ça c'est un le gros service que Freud m'a rendu littérairement avec son livre « La psychopathologie de la vie quotidienne », quand il étudie les lapsus, les actes manqués, etc., et qu'il montre l'énorme signification que peuvent avoir des faits en apparence dérisoires. Ça m'a servi beaucoup. Et alors, si on lit attentivement la règle du jeu, là, on s'aperçoit qu'il y a des quantités de faits de ce genre, enfin, presque des anecdotes, je dirais, qui apparaissent ça et là. Et c'est au fond autour de ça que tout s'est ordonné. D'abord, une double chose, restituer ces faits autant que possible dans leur vérité, ça, même pour moi, pour qu'ils ne soient pas perdus, pour qu'il y ait une permanence. Parce que la chose qu'on oublie, c'est une chose morte. Et c'est très détestable, enfin, de sentir qu'on est entouré de choses mortes. Et si on parvient à écrire, enfin donner forme littéraire à quelque chose qui vous est arrivé, cette chose persiste. Là, j'arrive un petit peu à l'idée proustienne, pas exactement du temps retrouvé, mais qu'au moins qu'il y ait certaines choses qui soient tant soit peu fixées et qu'on ait ainsi tant soit peu en sa possession. Et puis alors, d'autre part, il y a tout l'aspect de, alors, d'interprétation de ces petits faits qui vous ont frappé. Eh bien, on peut déduire toutes sortes de choses qui vous renseignent, enfin la réaction que vous avez eue. Peut-être même le fait que cette histoire-là vous soit arrivée à vous, et pas à un autre, vous soit arrivée comme ça à vous. Bien, ça vous renseigne sur vous, il n'y a aucun doute.
Nous venons d'écouter la voix de Michel Léris, et c'est vrai que c'est très passionnant ce qu'il dit, parce que, et d'ailleurs, Michel Léris est encore à redécouvrir, à découvrir par les jeunes générations. Et, mais il dit que s'il n'avait pas écrit des fragments de sa propre vie, il n'aurait pas découvert véritablement ce qu'il avait vécu. Est-ce que vous vous sentez, ressentez comme l'héritier de Michel Léris, Philippe Forest ?
Oui, d'une certaine manière. Moi, je crois tout à fait que la vie est comme un roman, et c'est seulement à condition d'écrire le roman de sa vie qu'on redevient possesseur, en quelque sorte, de celle-ci. Donc, il y a une leçon qui est très forte chez Léris. En fait, étrangement, j'ai très peu écrit, pas du tout, même, je crois, sur Léris, que je cite assez peu souvent, mais j'ai lu, il y a pas très longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, toute l'œuvre de Léris, enfin, l'essentiel de celle-ci, et un livre comme L'âge d'homme a un rôle très important pour moi, notamment, je pense que c'est ce qui m'a donné l'autorisation d'une certaine manière d'écrire celui de mes livres qui s'appelle Le Nouvel Amour, et dans lequel j'ai essayé à ma manière d'être à la hauteur, disons, de l'audace dont Léris lui-même fait preuve lorsqu'il explique dans la célèbre préface à ce texte que l'art de l'écrivain doit être comparable à l'art du toréador, et qu'il s'agit sinon d'affronter la corne du taureau elle-même, du moins l'ombre que la corne de ce taureau projette sur la page. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est très fort dans ce que Léris nous dit. Et puis, cette question que Léris soulève aussi quand il dit qu'il ne s'agit pas de raconter tellement sa vie, mais de poser la question du qui suis-je. Bon, peut-être à tort, parce qu'on n'est jamais très bon juge de sa propre personnalité, mais moi, je crois être assez peu narcissique, au sens où je m'intéresse assez peu à mon propre personnage. Et j'ai toujours pensé que cette question du qui suis-je, en fait, elle était à poser justement dans la lignée de Léris, mais aussi de Breton, d'Aragon, qui sont des écrivains surréalistes dont on parle assez peu souvent lorsqu'on évoque l'autofiction aujourd'hui, mais qui pour moi ont une influence vraiment déterminante, parce qu'ils nous disent que cette quête du qui suis-je, c'est une quête impossible finalement, et qu'au bout du compte, le jeu se dissout dans une expérience qui est une expérience à la fois de vérité et de beauté. Dans le roman Le Réel, je cite le début de Nadja où Breton pose la question du qui suis-je justement, et la réponse qu'il donne est très étrange, puisqu'il cite un proverbe qui est le suivant: dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Et c'est comme si finalement le jeu ne pouvait se saisir lui-même que comme un fantôme, c'est-à-dire quelqu'un dont l'image manque au miroir. Je crois que c'est assez cette image du jeu fantôme. Enfin, Léris écrit un livre qui s'appelle L'Afrique fantôme aussi. Cette image du jeu fantôme, pour moi, c'est celle qui fait sens dans ma propre entreprise d'écriture autobiographique ou romanesque, comme on voudra. Aux antipodes d'une certaine autofiction, quand celle-ci justement exalte l'image de l'individu, l'image sociale de celui-ci, bon, moi, ce n'est pas du tout le chemin qui m'intéresse.
Vous avez publié récemment Le siècle des nuages. Et Le siècle des nuages, quand on l'ouvre, c'est un gros roman. Justement, Michel Léris évoquait la figure de Marcel Proust, mais je trouve que l'empreinte de Proust est très présente à l'intérieur de la structure et l'architecture de ce roman. On ne sait pas du tout de quelle histoire familiale il s'agit. C'est un roman initiatique sur l'invention de l'aviation, d'où le titre. Il y a la figure d'un père qui est omniprésente, et petit à petit, au fur et à mesure que nous entrons à l'intérieur de votre univers imaginaire, on s'aperçoit que du réel vient s'introduire de plus en plus. Et nous, lecteurs, on est véritablement aspirés vers cette histoire. Et vers le dernier tiers de ce roman apparaît la figure de la mère. Et voici ce que vous écrivez, page 576. Vous écrivez ceci, Philippe Forest. Elle parlait ainsi, sachant très précisément ce qu'elle faisait, malgré l'obscurcissement de son esprit, afin que ce roman soit celui qui manquait seul à la librairie disparue de son père, afin qu'il ait été, se disant bien sûr que je l'écrirais peut-être ou pas, et que alors il serait certainement trop tard, puisqu'elle serait morte depuis longtemps, qu'elle ne le lirait pas, et que la nouvelle de sa parution ne lui parviendrait que là-haut, et encore à la condition qu'il obtienne un prix et que le paradis soit relié à la TSF. Et la seconde condition lui paraissait plus facile à remplir que la première. De toutes les manières, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Elle ne croyait pas tant que cela à la littérature, à peine un peu plus qu'à l'aviation, à toutes ces histoires d'hommes accrochés à l'espérance à ces veines du ciel, m'ayant transmis un peu de son scepticisme, pas assez pour me dissuader d'écrire, mais suffisamment pour me prémunir contre la tentation d'y croire tout à fait. Et là, insensiblement, le lecteur, les lecteurs que nous sommes, nous nous apercevons que c'est l'autobiographie familiale et qu'en fait, c'est pour rendre l'existence, pas seulement de votre père, mais surtout de votre mère, que vous avez écrit Le siècle des nuages, comme si l'écriture était l'attestation de leur existence.
Oui, sans doute, c'est quelque chose que je n'avais pas prémédité, mais qui s'est imposé à moi à mesure que j'avançais dans le livre. Ce livre est un livre sur le père, mais c'est un livre qui est écrit pour la mère, en fait, parce que c'est elle qui est en quelque sorte l'héritière d'une certaine croyance mitigée, disons, en la littérature. Elle
est son père était libraire.
Son père était libraire, voilà.
Donc votre grand-père.
Mon grand-père, que je n'ai pas connu, était libraire à Mâcon, et elle-même était une grande lectrice, ce que mon père n'était pas. Elle rêve dans ce livre, en quelque sorte, à la possibilité du roman que j'ai finalement écrit, Le siècle des nuages, se termine sur l'évocation du livre que son fiancé, donc mon père, en 42, au moment où, suite à l'invasion de la zone sud par les nazis, ils ont été séparés, puisque ma mère se trouvait à Mâcon et mon père se trouvait en Afrique du Nord à l'époque, ce qui a conduit mon père par la suite, ce que je raconte dans le livre, à partir pour les États-Unis et à devenir là-bas pilote de chasse. Donc juste avant que la zone sud soit envahie, mon père a adressé comme cadeau d'anniversaire à ma mère un livre qui est le Tristan et Iseut de Béroulle, dans la version de Bédier. Et c'est comme si finalement le livre que j'ai écrit était comme la reprise et la réécriture de ce livre ancien qui raconte leur histoire d'amour et en quelque sorte mes propres origines familiales. C'est un roman autobiographique, mais dans lequel j'ai essayé que...
On s'en aperçoit petit à petit.
Voilà. Parce que j'ai essayé que celui qui raconte se tienne le plus en retrait possible. Et finalement, moi, je n'apparais dans le livre que dans les toutes dernières pages pour montrer l'effet qu'a pu avoir sur mon père la mort de sa petite-fille, donc de ma fille. Parce que je voulais... Il me semblait que c'était une des dimensions de la question que je n'avais pas abordée dans mes livres précédents. Et donc, ça me semblait important de le faire ici.
Et votre mère a pu lire Le siècle des nuages ?
Oui, oui, elle a pu le lire, oui, oui. Je pense que ça lui a fait plaisir que le livre existe.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en train de terminer un roman. Est-ce que ça sera la continuation de cette entreprise autobiographique ?
Ça sera la continuation de cette entreprise autobiographique, mais de manière, je crois, assez différente. C'est-à-dire, c'est un livre qui est beaucoup moins épique que Le siècle des nuages, qui est beaucoup plus intime, en quelque sorte, et dans lequel j'essaye de croiser le conte philosophique et le récit autobiographique.
C'est du Soseki Forest, alors ?
Oui, c'est curieux que vous disiez ça, c'est qui, parce qu'en fait, le livre s'appelle Le chat de Schrödinger. Donc, c'est une référence, si on veut, au livre de Soseki qui s'appelle Je suis un chat. Et Le chat de Schrödinger, c'est une expérience de physique quantique qui a joué un rôle important pour notre nouveau prix Nobel de physique, Serge Haroche, puisqu'en fait, pour autant que j'ai pu comprendre, parce que bien évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de physique quantique, c'est du côté de cette théorie-là que se sont développés les travaux de notre nouveau prix Nobel de physique. Mais bon, l'idée du chat de Schrödinger, parce que c'est quelque chose, je m'aperçois que tout le monde ne connaît pas très bien, c'est une expérience qui tente à montrer, et c'est bien sûr absurde et loufoque et incompréhensible, que dans la mesure où une particule élémentaire peut être dans plusieurs états à la fois, qui sont des états différents les uns des autres, on pourrait supposer qu'un chat soit en même temps mort et vivant. Et donc c'est ce thème de l'apparition-disparition que je reprends à nouveau, mais en faisant jouer à la mécanique quantique un peu le rôle que la littérature japonaise jouait dans Sarinagara ou l'histoire de l'aviation dans le siècle des nuages. Comment les choses apparaissent et disparaissent et comment chaque chose peut être à la fois là et pas là. C'est un peu le sujet de ce livre, donc... Qui a plus que les autres une allure de conte philosophique, je crois.
Dans votre univers romanesque, Philippe Forest, le cinéma est très important. C'est un marqueur d'identité, c'est aussi un fleuve émotionnel, c'est une ritournelle. Nous allons écouter un extrait de Pierrot le Fou.
Eh oui, c'est la vie.
Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas.
Si. Beaucoup plus que les gens ne le croient.
Non, Pierrot.
Faut te dire de m'appeler Ferdinand.
Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand.
Si. Suffit de vouloir, Marianne.
Alors évidemment, quand on écoute cet extrait de Pierrot le Fou, on revoit tout le film. Et on s'aperçoit que les dialogues sont entre la philosophie et la poésie.
C'est amusant, en fait, ce jeu presque surréaliste auquel on se livre à travers les extraits que vous avez choisis. Parce que quand j'ai parlé de Hoé tout à l'heure, j'ignorais que vous aviez choisi un extrait d'un entretien avec Hoé. Et en ce qui concerne Pierrot le Fou, en fait, il y a quelque chose que je pense vous ignorez, mais qui donne un peu de son sens à cet extrait-là. Quand je suis allé au Japon la dernière fois, c'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2008, j'ai fait un entretien, enfin un débat avec le photographe japonais Araki, parce que j'ai publié un livre qui est consacré à son œuvre photographique. Et il se trouve qu'Araki a voulu me prendre en photo à l'Institut français de Tokyo. Et il a tenu absolument...
Magnifique institut.
Oui, il faut le dire, oui, absolument. Et il a tenu à me prendre
avec
en photo.
Avec un très beau jardin où on fait des belles photos.
Mais lui, il a voulu me prendre en photo à l'intérieur de l'institut, devant l'affiche de Pierrot le Fou. Et donc, c'est une photo qui est reproduite, je sais plus où maintenant, mais je sais pas pourquoi il a eu cette idée tout à coup. Je pense pas qu'il y ait de ressemblance physique ni vraiment psychologique, mais ça lui semblait aller de soi que je ne pouvais être pris en photo par lui que devant l'affiche de Pierrot le Fou. Voilà.
Alors vous continuez à enseigner la littérature, à nous la faire découvrir autrement. Ce mois-ci, vous avez collaboré au volume de la Pléiade qui rassemble les œuvres d'Aragon. Nous allons écouter La Voix d'Aragon. Il va parler de sa conception du roman. C'est un entretien avec Pierre Lost du 18 mars 1970, à l'occasion de la parution de son livre « Je n'ai jamais appris à écrire » ou « Les incipits ».
Je dis qu'au fond, je lis ce que j'écris comme un roman policier, seulement moi, je ne sais jamais qui est l'assassin. Je ne sais si j'ai donné cet exemple, mais en tout cas, il est bon à reprendre. Dans mon livre, c'est l'exemple de Blanche l'oubli, livre qui se termine par un assassinat. Un garçon qui est amené à étrangler la femme qu'il aime, non pas par une passion particulière, comme on en voit malheureusement trop dans les rues, mais c'est une histoire que je n'avais pas préparée, je ne savais pas qu'il allait l'étrangler, cette fille. Et puis quand ensuite j'ai relu le livre, je me suis aperçu qu'il y avait des étrangleurs par-ci, par-là, dans tout le livre. Il y a au moins 4 préparations de la fin. Préparations qui n'étaient pas mon fait. Vous vous rappelez, il y a eu l'étrangleur qui mettait ses lettres à la poste de la rue Claire. Hein? Et puis il y a eu un étrangleur qui est un jeune Allemand qui a étranglé les dames du trottoir près d'un... l'endroit où se passe une des principales journées de l'éducation sentimentale, c'est-à-dire au coin de l'ancienne rue des Mathurins et de la ferme des Mathurins et de la rue Tronchet. Ces choses-là étaient entrées, comme en sont rentrées d'autres, comme est rentrée, je ne sais pas, la première de Johnny Hallyday qui avait lieu à ce moment-là, c'est-à-dire que j'écrivais mon livre au jour le jour, ou sinon tout à fait exactement, enfin très rapidement sous le coup des faits, en tenant compte de ce qui pouvait avoir été dans les journaux ou dans la tête des jeunes gens de cette même époque. Mais bien sûr que je n'avais pas du tout l'intention d'amener cela plus que beaucoup d'autres faits qui n'ont pas de suite dans le livre. Mais celui-ci, la logique du livre m'y a entraîné. À mon sens, il serait intéressant de réentendre à l'envers les romans, pas simplement en les relisant comme je fais, mais presque comme les enregistrements que l'on fait de la voix et qui donnent ensuite, quand on retourne, de petits chefs-d'œuvre dans une langue orientale inconnue, qui est certainement une langue d'oiseau.
Vous notez encore, j'ai toujours été animé d'un certain esprit de contradiction de moi-même. Il me semble même que je n'ai jamais écrit que pour contredire ce que j'avais écrit avant.
Oui, c'est à peu près certain. Si on regarde mes livres, c'est à peu près certain. Tout le monde ne s'en aperçoit peut-être pas parce qu'il faut replacer les choses dans la période où c'était. Mais enfin, comme par exemple, moi qui écrivais essentiellement des poèmes, comment une certaine contradiction et avec ce que j'écrivais, et avec ce que mes meilleurs amis pensaient, m'a entraîné à leur opposer à contre-courant de ce qui était chez nous la mode, le roman. Et j'étais le seul d'ailleurs dans le groupe qui a été celui des dadaïstes parisiens et ensuite des surréalistes, j'étais le seul à écrire des romans initialement. C'était très mal vu, ça ne se faisait pas. Cependant, par suite peut-être de l'amitié, entre autres choses, mais probablement aussi d'autres considérations, j'étais soutenu par quelqu'un dont la voix était prépondérante et qui était breton. Breton a imposé à mes autres amis un livre comme Anicet. Et le livre que j'ai détruit en 1927, où environ 1500 pages étaient écrites, était un livre qui était franchement la contradiction de l'ensemble des livres que j'avais écrits jusqu'à cette date, c'est-à-dire jusqu'à y compris Le Paysan de Paris. Après quoi, peut-être est-ce même ce fait que ce livre n'ayant pas abouti, ça m'a rendu très difficile de continuer à écrire, et c'est le seul moment de ma vie où, pour ainsi dire, stoppé par mes contradictions non exprimées, je suis resté plusieurs années, 5 ans, 6 ans, sans véritablement écrire.
Nous venons d'entendre la voix de Louis Aragon, donc en Pléiade sortent plusieurs ouvrages d'Aragon. Aragon qui est maintenant sous-estimé, très peu lu. Pourquoi ?
Oh, parce que je crois qu'il va complètement à contre-courant de ce qui est devenu la littérature et la poésie française. Et c'est ce qui le rend à mes yeux d'autant plus intéressant. Il y a aussi la question politique, bien sûr. Il incarne quelque chose qui appartient à ce que j'appelais dans le siècle des nuages le vieux XXe siècle, avec ses horreurs, mais aussi avec ses grandeurs. C'est une question très compliquée, la question politique chez Aragon. Bien sûr, il y a eu la complicité avec le stalinisme, mais on ne peut pas donner complètement tort à Aragon non plus. C'est quelque chose que j'ai du mal à démêler. Moi, il y a quelque chose qui me fascine chez Aragon, et à quoi je prête toute mon attention, c'est la question du vertige, en fait. Il y a une phrase d'Aragon qui vient de La Mise à mort et que j'ai mise en exergue du Nouvel Amour, je crois. Il dit « Être un homme, c'est pouvoir infiniment tomber ». Et Aragon parle toujours du perdre pied. Voilà, je crois que la vérité, pour moi, elle se situe dans le vide de ce vertige à l'intérieur duquel on accepte de tomber. Et c'est ce que je retrouve dans les œuvres d'Aragon, c'est ce vertige-là, ce perdre pied, et ce courage aussi qui fut le sien.
Dans votre premier livre, Philippe Forès, vous avez placé en exergue cette phrase qui m'a paru très mystérieuse. « Tout is the beginning of the end ».
C'est la première phrase de Peter Pan. Du roman Peter Pan. Deux est le commencement de la fin, parce que ça veut dire, c'est pour ça que je l'ai laissé en anglais, peut-être un peu par coquetterie aussi, mais parce que c'est difficile à traduire, enfin on perd en français l'ambiguïté de la phrase anglaise. Ce que Barry veut dire, c'est que l'âge de 2 ans est le commencement de la fin. C'est-à-dire que à 2 ans, on sort de l'enfance et on commence à finir en quelque sorte. Mais ça veut dire aussi, enfin ça peut s'entendre comme ça aussi, deux, c'est-à-dire le couple, l'homme et la femme, le père et la mère, dans le fait même qu'il donne naissance à un enfant, lui donne avec la vie la mort qui forcément l'attendra. Donc c'est pour ça que cette phrase me semblait pertinente à placer en exergue comme ça, pour dire à la fois cet adieu à l'enfance que nous vivons tous et cette espèce de fatalité biologique qui pèse sur nous, mais contre laquelle on peut et même on doit s'exprimer, notamment sous forme de littérature.
Merci Philippe Forest. Je rappelle que la plupart de vos livres sont publiés en livre de poche dans la collection Folio. Nous n'avons pas eu le temps de parler d'un livre aussi magnifique qui s'intitule « Beaucoup de jours » d'après Ulysse de James Joyce. Vous trouverez toutes les références sur notre site. Merci aussi à toute l'équipe de Hors-Champ, Pierre Mine, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Merci aussi à vous Philippe Forest et bonne chance pour votre prochain livre.
Merci.
Vous écoutez France Culture, dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.